sommes réunis
ici, en
ce jour de samedi 11 mars pour parler de morphose, une terre sans avenir. Donc l'idée c'est de parler de post-apo, de parler d'humanité après l'apocalypse, de parler du monde de demain en fait, et de se poser un petit peu les questions, d'abord de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont mis en place leurs univers post-apocalyptiques ou pas, enfin, en tout cas leurs apocalypses, qu'est-ce qui reste derrière. Quels sont les humains qui survivent, qu'est-ce qu'ils ont mis en scène, pourquoi.
Et de parler du monde d'après-demain aussi, si vous voulez.
Exactement.
Voir du jour d'après.
Voilà. Ouais. Autour de la table, Estelle Faye. Estelle qui notamment, on va parler d'un état de gire,
ouais.
Évidemment. On va parler de la dernière lame.
Ouais.
Un petit peu.
On peut aussi.
On peut aussi. Voilà. À côté d'elle, Laurent Weil. Vous pouvez lire notamment Goodbye Billy ou Manuscrit au Vinson. On va parler des damnés d'asphalte et des étoiles sans balance. Voilà. Et puis Philippe Arnaud, alors Jungle Park, mais aussi La peau d'un autre, un peu moins dans la littérature imaginaire,
oui,
peut-être, carrément
réaliste. Oui.
Réaliste. Et puis la Sorcitresse,
oui.
Je l'ai bien dit.
C'est bien ça.
Voilà.
Pour les petits.
Pour un petit peu les plus jeunes. Moi, je vous propose qu'on fasse peut-être un premier tour d'horizon, un premier tour de table qui nous parle de leurs apocalypses à eux, comment est-ce qu'ils les ont mis en scène dans leur roman. Et puis après, on va dérouler sur le monde de demain. Estelle, est-ce que tu veux commencer ? Parle-nous un petit peu d'un éclat de givre, hein, par exemple.
Alors, un éclat de givre, en fait, c'est un peu du post-post-apo. C'est-à-dire que c'est un siècle après l'apocalypse. J'ai détruit 90% de la planète, au moins. Ça s'est fait déjà. Et selon une apocalypse à multiples facteurs que je vous laisse découvrir. Et il y a quelques grandes villes qui ont survécu. Les terres sont inhabitables, les océans, n'en parlons pas. Quelques grandes villes qui ont survécu, dont Paris. Enfin, les autres, on n'en est pas sûr, parce que c'est pour l'instant mon seul roman à la première personne. Donc, on est vraiment dans la peau d'un habitant de ce Paris du futur, qui est à la fois à moitié en ruine et puis à moitié reconstruit, où il y a des bouts de technologie plus avancés qu'à notre époque. En gros, je place mon apocalypse à la fin du XXIe siècle. Et le roman se situe donc au XXIIIe siècle. Et en même temps, donc, il y a... comme les villes, c'est tout ce qui a survécu, Paris est surpeuplé, il y a des bouts de Cour des Miracles qui se sont construits, il y a des maisons sur les ponts comme au XVIIe siècle, c'est un mélange vraiment de SF, d'anticipation et d'archaïsme en fait, ce Paris-là. Et avec aussi des vignes OGM qui ont envahi Montmartre, des sirènes hybrides qui nagent dans la piscine Molitor, enfin un monde vraiment foisonnant, paradoxalement entouré par un monde très vide. Et simplement, comme on est dans la peau donc, de quelqu'un qui a 23 ans, qui n'a jamais connu que ce Paris-là, pour lui, finalement, l'apocalypse, c'est comme un peu pour beaucoup d'entre nous, la guerre de 14-18. On sait que c'était atroce, on sait que c'était horrible, mais on ne se réveille pas tous les matins en se tapant la tête contre les murs en disant « Ah mon Dieu, la guerre de 14-18 ». Et lui, c'est un peu ça. Il ne se réveille pas tous les matins en se tapant la tête contre les murs en disant « Ah mon Dieu, mais l'apocalypse, c'est atroce ». Non, c'est le seul monde qu'il a connu. Et finalement, il n'y est pas trop mal. Et c'est aussi pour ça que c'est la première personne, c'est dire « Ce monde qui, à nous, nous paraîtrait hyper dur à vivre ». Et les conditions pour lesquelles il vit sont vraiment dures, enfin je ne fais pas de cadeau là-dessus. J'ai aussi bossé avec des scientifiques pour mettre en place mon apocalypse et les conditions de vie dans ce monde-là pour que vraiment elle soit le plus réaliste possible. Donc c'est un monde sans concession, mais lui, dedans, arrive à s'y sentir bien et même par moments il arrive à être heureux. Quoi. Voilà, donc c'est du post-apo qui donne la pêche en fait.
Laurent,
t'as pas mis le prix.
Un peu pareil pour toi.
Un peu pareil avec une nuance, c'est que comme disait Estelle, son post-apo c'est du post-post-apo et moi c'est du post-apo direct, c'est-à-dire que c'est presque du pré-post-apo dans la mesure où moi ça se passe seulement à 80 ans d'ici et qu'on n'est pas dans plusieurs facteurs comme tu disais tout à l'heure de destruction de la planète, mais simplement la politique s'est effondrée. C'est-à-dire qu'on en voit tous les jours des exemples, hein. Il suffit d'ouvrir la télévision, n'importe quelle chaîne. On a des super exemples de gens qui devraient être appelés aux plus hautes fonctions d'un bord ou de l'autre, hein. Je ne fais pas de critique particulière. Et finalement, les gens finissent par perdre confiance en ces gens-là. Donc ça se passe dans mon monde, le premier des bouquins qui s'appelle « Les étoiles sans balance » se passe à 80 ans de maintenant, quand les gens en auront... eu marre de cette politique depuis environ une trentaine, quarantaine d'années et auront commencé à recréer un autre monde, c'est-à-dire sans élus, sans tout ça, où ils auront recréé des communautés qui essayent de survivre. Je parle pas, quand je dis communauté, les gens pensent hippie. On n'est pas dans ce cas de figure du tout. parce qu'on est dans un monde où il y a la survie, il n'y a plus d'électricité, tout s'est effondré, les centrales ne fonctionnent plus, comme la finance s'est effondrée, il n'y a plus rien qui marche, donc il n'y a plus d'énergie, si vous voulez de l'électricité, globalement, il faut pédaler. Hein, voilà. Et donc les gens essayent de survivre, et la première histoire se passe sur un hiver qui dure environ 3-4 mois, l'histoire elle-même, et ils essayent de survivre là-dedans. Bien sûr, il y a des facteurs de danger extérieur, parce que dans toutes les situations difficiles comme ça que la planète a connues jusqu'à présent, il y a toujours eu une sorte de, je vais l'appeler Napoléon, pour ne pas faire de la pub, un certain Autrichien un petit peu nerveux. Et donc ce Napoléon essaye de s'approprier, en essayant soi-disant de fédérer les gens, mais il essaye, bon, ça reste de la politique telle qu'on la connaît maintenant, mais les gens, ils ont vécu ce après-politique, et donc décident de créer eux-mêmes et de faire différemment de ce qui a été fait jusque-là. Donc ça reste un roman d'aventure, évidemment, comme le tien, j'ai lu le tien avec beaucoup d'intérêt.
Voilà.
Et donc ça reste un roman d'aventure dans tous les cas de figure. Mais c'est un roman d'aventure basé, j'ai travaillé aussi avec des gens comme on fait souvent, pour savoir par exemple quelles seraient les technologies qu'on pourrait employer pour faire soit de l'électricité, soit de l'énergie, soit du chauffage, soit de l'eau potable avec ce qu'on a, soit créer des serres qui soient vraiment productives sans avoir tout ce qu'on a maintenant qui sont les pesticides, les machins, les Monsanto et autres. Comment faire vivre une communauté d'environ 15 000 personnes, puisque je l'ai situé dans une ville que je connais bien, ça m'évitait de me documenter sur la carte, puisque je l'ai mis chez moi, hein, carrément, Pont-au-Combo dans le 77, Seine-et-Marne, toc, voilà. Ça se situe 55 ans après que Paris est complètement brûlé. Là, c'est pas Paris brûle-t-il, c'est Paris ratatiné. Oui, mais Paris ratatiné, voilà. Donc, les gens essayent de survivre dans cette communauté-là en récupérant des bouts de trucs qu'ils trouvent à droite à gauche, des morceaux d'épave de ceci, de cela. Ils fabriquent avec un moteur de machine à laver en pédalant à l'envers, on fait de l'électricité. Ça dure le temps que ça dure, ça marche le temps que ça marche. Mais voilà, ils essayent de survivre avec ça. Et c'est l'histoire de cette communauté qui est autour d'un clan, parce que je pense que ça va être des familles un petit peu élargies. On aura perdu la notion de famille, frère, fils, père-fils, grand-père, tout ça. Ce sera dilué dans le temps, donc j'aurai des clans, c'est le clan Costa en l'occurrence, où il y a un grand-père qui pour survivre, et c'est un des seuls qui sait encore lire, s'est vu affecté par le maire du coin, la médiathèque du bled. Et donc dans cette médiathèque, il y a tout un tas de documentation, et comme il sait lire, il trouve des méthodes de comment est-ce qu'on fabrique du biogaz, comment est-ce qu'on fait des serres, comment est-ce qu'on fait ce genre de choses. Et il sert de faire valoir aux politiciens locaux qui le gardent dans cette médiathèque et qui lui octroient certains privilèges simplement parce que le gars le valorise par ses connaissances. Donc ça, c'est un peu le nœud de l'histoire. Et puis après, survient d'autres choses, de l'aventure, etc. Donc c'est le début d'une saga. Il y a deux tomes pour l'instant, le troisième est à moitié. Et chaque tome, je les ai voulu distants de 15 ou 17 ans entre eux, de manière à ce qu'on voit l'évolution justement après l'après-technologie et voir l'évolution 15 ans, 20 ans plus tard, où les premières choses qu'on utilisait encore à l'époque, quelques moteurs à explosion pour lesquels on distillait encore du carburant pour les faire fonctionner, finissent par ne plus marcher du tout parce que les pièces n'existent pas, sont impossibles à fabriquer par les moyens du bord. Et donc, comment est-ce qu'on pallie à ça de plus en plus en allant vers une civilisation qu'on va qualifier de agraire, et en même temps, ils sont obligés de se déplacer au gré des pollutions qui sont déclenchées. C'est-à-dire que, par exemple, les stations, nucléaires, voilà, ça, ces trucs-là, voilà. Donc ces trucs-là, si on ne les entretient pas, à un moment donné, ils génèrent un problème, et un problème sérieux qu'on ne voit pas. Sauf que les gens qui vivent dans ces environnements le voient sous forme des enfants qui sont de plus en plus mal formés à la naissance parce que radiation, pourquoi les animaux ne sont plus comme ils étaient avant, etc. Donc ils se déplacent, c'est des clans qui se déplacent vers des zones où ils espèrent qu'il n'y a pas ça. Donc là, sur le troisième tome que je suis en train de faire, ils vont partir carrément d'Europe pour aller vers l'Amérique du Sud où il n'y avait pas, à l'époque de ce qu'ils ont pu voir dans la documentation qu'ils ont, il n'y avait pas de centrale nucléaire. Ils espèrent un monde meilleur là-bas. Ils vont y aller en dirigeable, etc. Donc ça reste de l'aventure. Mais c'est basé sur un petit peu... J'espérerais que le futur, s'il doit s'écrouler, soit un petit peu comme ça, rempli d'espoir, comme tu disais, pour le clan, et de solidarité entre non seulement à l'intérieur d'un clan, mais en essayant de fédérer un certain nombre. Je suis peut-être un grand rêveur, bon, voilà, mais voilà, j'aimerais bien que ce soit comme ça.
Philippe.
Oui.
Alors, parlons un peu de Jungle Park.
Y a-t-il
de l'espoir?
Oui, alors ça serait peut-être du prêt à peau, moi, ou de la peau, je sais pas. Donc le point de départ, en fait, il est très réel. C'est une déclaration d'un monsieur qui s'appelle Lawrence Summers, qui est un économiste américain, conseiller des présidents Clinton et Obama, directeur d'Harvard avant, directeur d'Harvard après, donc d'une grande université américaine. Et il a fait une déclaration dont j'ai cherché pendant 24 heures l'origine en tant que hoax ou fake, parce que j'arrivais pas à croire qu'il avait dit ça, qui était, je vous la résume, je l'ai mise en première page du livre, qu'il fallait encourager la migration des industries polluantes et des déchets toxiques vers le continent africain, parce que l'espérance de vie des gens y était nettement inférieure à celle des occidentaux, et parce que donc il fallait moins se soucier de la pollution dans un continent où une partie importante des gens meurt avant d'arriver à l'âge adulte, que dans un pays où beaucoup de gens peuvent avoir des cancers associés à ces pollutions. Et donc, il concluait son intervention en disant que, d'un point de vue économique, le principe qui consistait à déverser les déchets toxiques là où la masse salariale est la plus faible et là où les coûts sont inférieurs en termes de santé publique, que cette logique-là était, pour lui, imparable. Donc, je me suis dit, ah, tu veux jouer à ça ? Et en lisant attentivement ce qu'il avait écrit, je me suis dit, ok, donc on va dire on va se mettre en 2050, donc 35 ans après, et on va imaginer ce qui se passe. Alors on va imaginer que ça se produit, que ça arrive, et on va voir ce qui se passe. Alors sur le continent africain, donc j'ai prolongé l'idée, et en même temps avec d'autres éléments d'actualité, c'est-à-dire que mon personnage principal, en fait, c'est un Français qui s'est installé aux États-Unis, qui a dirigé un parc d'attractions africain. Parce que l'Afrique était devenue à la mode aux États-Unis suite à un jeu de télé-réalité qui s'appelait Surviving Africa. Donc on envoyait 7 personnes en Afrique et il y avait un survivant qui gagnait une fortune. Et ça a été c'est un succès, j'imagine que c'est un succès colossal sur le web, sur la web TV. Donc du coup, lui, il a monté un parc d'attractions qui s'appelle Africa Land aux États-Unis, qui marche très très bien. Et puis à un moment donné, il va être, il y a ce qu'on imaginait être un attentat terroriste, il va être arrêté, il va être condamné pour cet attentat qu'il n'a absolument pas commis, et il va être condamné à mort. Il est condamné à mort à ce moment-là, en 2050, étant donné que les injections létales coûtaient cher et que ça marchait pas bien. On les met dans des charters par 200 ou 300 et on les parachute en Afrique dans les zones les plus polluées, les plus irradiées, les plus toxiques, et normalement ils survivent pas longtemps. Quand ils survivent, c'est au prix de mutations effrayante. Et il y a d'ailleurs une espèce de clan dirigé par un homme qu'on appelle l'homme de sang qui règne un petit peu sur une espèce de royaume, mais un peu mythique vu des États-Unis, parce qu'on n'est pas sûr de son existence. Et donc mon personnage principal est parachuté, sauf que son avion se crache avant d'arriver sur la zone. Il tombe en parachute à Douala. Il est recueilli par un Africain qui est chef d'un réseau de résistants qui essaye de fédérer des réseaux de résistance en Afrique pour s'opposer à ce qui se passe sur le continent. Et il le prend en otage, ce monsieur, parce qu'il veut l'utiliser comme otage pour essayer de libérer son fils à lui, qui est détenu au cœur du Congo, là où se trouvent les condamnés à mort et là où ils sont réunis pour ceux qui ont survécu. Donc ça, c'est la partie africaine de l'histoire. Pendant ce temps, la fille de mon personnage, Tony, aux États-Unis, elle est persuadée que son père est vivant et elle est persuadée que son père est innocent. Et donc, avec son amie, qui est Serena, elles vont essayer d'abord de retrouver la trace du père de Joanie et ensuite de prouver son innocence. Et à partir de là, un autre thème que j'aborde dans le roman, c'est le post-humanisme, avec le fait qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle les maîtres du sang, qui sont soigneusement cachés, mais qui dirigent en fait la planète au fond, et qui utilisent le sang qu'ils récoltent pour acquérir une forme d'immortalité. Et c'est ce complot-là que petit à petit Serena et Joanie vont mettre à jour. Donc c'est en fait une histoire dans laquelle les questions que je pose à partir de la déclaration de ce type-là sont d'ordre écologique, parce que mon personnage, en découvrant l'Afrique, en découvrant la culture africaine, il va renaître, changer, se transformer profondément et devenir quelqu'un qui veut se battre pour un monde meilleur. Donc de l'optimisme, oui, mais il va falloir se battre.
Je rebondis parce que tous les deux, vous avez la question de la pollution un peu au cœur. On s'en vient à la question écologique. Est-ce que tu as la même dans un éclat de givre, cette question sur la pollution, est-ce que c'est une tendance un peu post-apo?
C'est même pas qu'une tendance. Moi, là, j'écris pour beaucoup dans mon bureau, qui est dans un tout petit appartement au sommet d'une tour d'immeuble en banlieue parisienne, genre d'endroit sans identité, mais bien élevé, bien haut en hauteur. Et c'est très simple, dès qu'il fait beau, on voit le ciel qui devient marron au-dessus de Paris. Donc, comment dire, la pollution, objectivement, je veux dire, je la vois tous les jours. Je vois les membres de ma commune qui ont de plus en plus d'asthme précoce. Enfin, voilà, c'est même sans aller chercher les grands problèmes de pollution de notre temps, dont parlent quand même de plus en plus aussi les scientifiques autour de nous, c'est quelque chose que vraiment je constate au quotidien. Donc, ça fait de toute manière partie de la vie, même très proche de moi, et évidemment, ça irrigue aussi mes vies.
D'accord. Et en termes de structure politique, sur vos avenirs, entre guillemets, comment est-ce que ton pari est organisé? Puis on va parler de l'Afrique, du réseau de résistance.
Disons, comme pour tout combo de l'oral, je pense, je ne crois plus tellement à la rédemption du système politique actuel, et c'est plutôt qu'est-ce qui se passe après l'effondrement, en fait. Je suis partie d'un système politique qui va dans la direction qu'il a prise, je trouve, ces dernières années, c'est-à-dire un système politique qui se détache de plus en plus des réalités du monde et qui vit de plus en plus dans sa propre bulle et qui, donc, quand tout s'écroule, finit par s'écouler avec le reste. Et donc, dans ma ville de Paris, telle que je la reconstruis, en fait, c'est un futur aussi, mine de rien. Voilà, on met aussi en avant ce qu'on prend en tant qu'auteur, par moment, en tout cas, c'est ce que je fais. C'est un futur dans lequel on se rend compte beaucoup de l'importance des livres, de l'importance de la culture. Je pense qu'on se rejoint sur ce thème-là. Et que vraiment, les livres sont une ressource, justement quand on n'a plus beaucoup de ressources. Parce que parfois, quand on en parle avec des gens qui font partie des puissants de ce monde à l'heure actuelle, on a l'impression que la culture, c'est secondaire, que la culture, c'est un luxe, que la culture, c'est ce dont on va parler dans les budgets une fois qu'on aura réglé tout le reste. C'est là où on va mettre les gens incompétents, mais qu'il faut bien caser quelque part. Et alors que finalement, quand on prend un monde où tout s'est effondré, la culture, l'éducation, les sciences, c'est ça qui permet encore de faire des sociétés qui tiennent un peu debout. Et donc mon pari s'est reconstruit autour de quelques grands pôles qui sont en fait les pôles de savoir, qui sont donc la communauté des Sorbons à la Sorbonne et la communauté des enfants psy qui sont dans ce qu'on appelle Stonehenge maintenant, c'est-à-dire quatre grands menhirs couverts de sortes de champignons brunâtres à leur sommet. Et c'est la grande bibliothèque François Mitterrand pour ceux qui connaissent Paris. Et c'est vraiment les deux pôles les plus protégés de Paris, chacun par sa communauté, parce que c'est les deux pôles où il y a le plus de savoir. Et le savoir, dans ce monde-là, maintenant, c'est le pouvoir. Et par exemple, quand il y a une question de querelle de territoire, quel territoire appartient à qui dans Paris, c'est les Sorbons qui vont sortir des livres, dans les bouts de livres et les bouts d'archives, d'images vidéo qu'ils ont réussi à conserver, et qui vont trancher la querelle, pour dire tel territoire, ça appartiendra à un tel. Et donc, oui, c'est aussi un Paris qui s'est beaucoup communautarisé, où les gens sont beaucoup regroupés par quartier, par bout de quartier, et à la fois, ça leur permet de développer des solidarités et de survivre, mais ça a aussi ses propres dérives, et mon héros, Chet, c'est quelque part celui qui, dans un éclat de givre, va pouvoir finalement, alors qu'il n'est pas forcément le personnage le plus doué de Paris, se lancer dans une quête pour sauver la ville, parce que c'est un des rares, dans ce Paris-là, qui n'appartient à aucune communauté. C'est un des rares, c'est un des rares francs-tireurs quelque part. De ce Paris-là, c'est un des rares qui passe de communauté en communauté, qui va dans plein d'endroits différents, qui parle à plein de gens différents et qui finalement a gardé une liberté de mouvement et une identité complexe dans un monde qui s'est beaucoup communautarisé.
Laurent, en termes de structure sociale?
En fait, j'ai écouté ce que tu disais. J'écoute toujours ce que tu dis. Voilà. Mais tu disais le pouvoir, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Et en fait, pour moi, mon point de départ sur Webkin, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, ça rejoint la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est plutôt l'ignorance, le pouvoir. Plus vous enfoncez les gens en leur faisant ignorer ce qui se passe, plus vous les maîtrisez. L'exemple bête, c'est comment s'appelle ce présentateur imbécile qui a 300 mots de vocabulaire, Cyril Hanouna. Voilà. Donc lui, il a des émissions à grande diffusion, à des heures de grande diffusion, que des millions de gens regardent sans rien apprendre, voire en désapprenant des choses qu'ils savent déjà. Parce qu'on leur raconte des bêtises plus grosses que l'animateur lui-même, ce qui est pas peu dire. Et donc c'est... voilà. Et je pense que dans un futur, les gens seront lassés de ça, parce que ce qu'ils considèrent comme le pouvoir, c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui, non pas les dirigent, mais des gens qui les aiguillent et qui les guident. Or, ce qu'on a à l'heure actuelle, quand on voit les gens qui vont aux élections, c'est des gens qui veulent diriger. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Si on va au fond des choses, moi je vote pas pour un type qui me dirige, je vote pour un type qui a une vision pour mon avenir, qui me dirige maintenant. Je sais que je me lève le matin, que je vais bosser, que je vais écrire mes bouquins, c'est pas besoin de lui pour ça. Pas besoin qu'il me le dise, j'ai pas besoin qu'il prenne du pognon sur ce que je fais. Surtout pour... enfin bref, passons. Bon. Donc pour moi, en fait, le point de départ de mon truc, c'est que l'ignorance a conduit à ça, a conduit à des grands désastres, qu'ils soient financiers, qu'ils soient écologiques, par pure chose. Regardez, un désastre écologique total. Tu parlais de... Tu regardes Paris, tu vois un truc, toi, t'es vachement plus haut que moi au niveau géographique, je veux dire. Tu regardes et tu vois le ciel, il est tout marron. Mais qui fait quelque chose à propos de ça? Il y a la maire de Paris qui gigote un petit peu en disant « Tiens, on va interdire au diesel de rentrer dans Paris, tatatitata. » Bon. La pollution des véhicules diesel dans Paris, c'est 10% de la pollution. La pollution, c'est pas ça. La pollution, c'est le chauffage des immeubles, et c'est un certain nombre d'autres choses qui arrivent, et des énormes camions qui circulent, et tout ça. C'est pas la pollution de lambda avec sa Clio diesel. Voilà. C'est pas là qu'il est le problème. Alors on essaye de nous culpabiliser avec un tas de choses comme ça. Et c'est ce qui amène la fin de tout ça. C'est que c'est une espèce d'engrenage qui font que les gens... Moi, mon postulat sur mes romans, je vais faire comme toi, je vais lâcher une étude de bouquin. Donc, sur Les étoiles sans balance ou sur Les damnés de l'asphalte, qui est la suite, c'est le postulat de base, c'est on a tellement pris les gens pour des cons qu'ils en ont eu marre et qu'ils ont tout simplement arrêté de fonctionner avec le système. Et ça arrive tout doucement et on le voit maintenant. C'est quoi les intentions de vote pour les prochaines élections? Entre un escroc qui paye sa femme une fortune et ses gosses et tout ça, et d'autres qui n'ont jamais rien fait du tout, ou des mecs qui sont à gauche qui sont financés par des banques. Franchement, ça veut dire quoi? La gauche, la droite, le milieu, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. C'est du flan, c'est que des types qui sont carriéristes. Hier soir, je me suis accroché avec le maire ici. Je ne savais pas que c'était lui. Bon. Ah. Une personne fait un discours, et j'étais dans la salle, donc poliment, comme tous les auteurs, c'est notre mission, un petit doigt sur la couture du pantalon, on écoute le discours de la personne officielle, pas de problème. Bon. Elle fait une erreur bien excusable d'accord pendant son discours. Bon. C'était pas un imparfait du subjonctif, je vous l'accorde, mais elle fait une erreur. Et donc moi, je ricane pas, mais je dis la phrase avec le bon accord, je sais plus ce que c'était. Et il y a une personne qui se retourne. Mais vous savez que c'est l'adjointe à la culture. Ah ben oui, voilà.
Justement.
Voilà, voilà. Et donc après, il y a un autre monsieur qui avait entendu, qui était lui, je ne savais pas qui c'était, et en fait, il est revenu me voir aujourd'hui, c'était le maire. Il est revenu me voir aujourd'hui en me disant « Je vais vous prendre celui-ci, ça a l'air intéressant, c'était très bien notre discussion hier soir, et donc on repart. » Je dis « Oh là 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 !» Et je dis « Pour qui je... À quel prénom ?» Il me dit « Faites-le pour monsieur le maire. » Ok. Ok, d'accord, ambiance. Mais bon, il m'en voulait pas parce qu'on a eu une discussion, il était les républicains. Bon, les républicains et les républicains, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Bon, bref. Mais bon, je lui disais, hier soir on s'est accroché là-dessus, je dis, vous croyez que les gens vont avoir confiance? C'est pas pour rien qu'il a pris ce livre-là à travers tous les bouquins que j'avais, pourquoi il a pris celui-là? J'ai des thrillers, j'ai des bouquins, machin, il a pris celui-là. Parce qu'on en a parlé hier. Et je lui ai fait une dédicace que j'espère il lira en arrivant chez lui, parce que s'il la lit avant de partir, je vais en prendre une, moi. Bon. Dans lequel je lui dis, quoi, la politique, voyez où ça mène, voyez, voilà, faites attention. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux, on n'est pas des numéros de sécurité sociale, on est des gens. Et on aimerait bien qu'on nous considère comme des gens et pas comme de la viande à Cyril Hanouna, de temps en temps, quoi. Alors, je sais pas, il y en a peut-être quand même Cyril Hanouna dans la pièce. Mais bon, moi j'ai ouvert ce type à 30 mots de vocabulaire, je disais 300, j'exagérais tout à l'heure. Hein, bon. Ah. Et ça, c'est poussé par le pouvoir, de même que les grands groupes qui achètent les médias, pour avoir une espèce de pensée unique. Allez voter. Voter, c'est essentiel. Mais vous allez voter pour qui, là? Vous allez voter pour Fillon, vous allez voter pour Hamon, vous avez un mec financé par les banques, un type qui n'a jamais rien foutu, et un autre qui magouille. Mais il a été Premier ministre de la France, et alors, depuis quand c'est un synonyme d'honnêteté? Donc, voilà, je ne vais pas emmener le débat sur le truc, c'est pour annoncer mon truc de post-apo. Le post-apo, c'est il n'a pas besoin d'avoir une catastrophe nucléaire, de toute façon, elle va arriver, ça, on n'a pas besoin de ça, hein, ça va nous prendre à la figure. Depuis le temps, j'écoutais une émission justement sur le nucléaire, il y a peu de temps sur France Culture, où cette radio d'extrême droite, comme chacun sait, et donc qui racontait dans France Culture que l'état des lieux des centrales nucléaires en France, il y a 58 réacteurs nucléaires, il y en a 6 qui sont à l'arrêt pour problème majeur ou obsolescence, c'est quand même pas rien, c'est quand même des machins qui sont susceptibles de vous péter à la figure si vous les regardez de travers quand même, hein. Donc, ils ne savent pas comment les détruire ou comment les arrêter. Ils n'ont pas, les mecs, ils n'ont pas envie de budgétiser, je crois, maintenant. Ils n'ont pas budgétisé de quoi les démonter en sécurité. Et même s'ils les démontent en sécurité, les bouts de machin qui traînent dans les, qui se sont baladés dans les centrales nucléaires, ce machin, vous le regardez, il vous file le cancer. Donc, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, comme tu disais, on va les envoyer en Afrique, les enterrer, ces trucs-là, c'est d'ailleurs ce qu'on fait, hein, je ne me fais pas d'illusions. On va faire ça, mais jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps? Et à un moment donné, il y en a une qui va péter, parce que jusque-là, c'était Tchernobyl. Tchernobyl, ouais, c'est loin de chez nous, et puis de toute façon, les radiations, elles ne passent pas la frontière. Hein, c'était le truc, voilà. Fukushima, c'est encore plus loin, bon, arrêtez de manger du sushi, puis c'est bon, vous avez réglé le problème. Voilà. Mais le problème de Fukushima, il se répand dans la mer, etc. Je ne suis pas alarmé, je suis juste réaliste. Je suis juste réaliste. Alors après, on n'y croit plus à la politique, il ne faut pas s'étonner. Les types disent, mais vous votez pas. Mais je ne vais pas voter pour toi, mon con. Qu'est-ce que tu as à proposer? Donc les gens arrêtent de voter et ça produit une société, comme je disais, où les gens se referment sur eux-mêmes. Moi, franchement, si les gens de mon quartier me disaient, écoutez, on va se refermer, on va vivre en autarcie, on va faire des serres, on va faire des machins où on saura ce qu'on mange, on va savoir ce qu'on respire, on va savoir ce qu'on boit. Bah écoute, moi j'ai des gosses, je veux bien, hein. Je veux bien, hein. Bon, on arrête les histoires de Mirador et on trie à l'entrée les Noirs, les Blancs, les Arabes, tout ça, on arrête ça. Ok, on fait rentrer tous ceux qui sont capables d'avoir une philosophie de vie qui vous amène quelque part. Je me fous de la nationalité ou de la couleur ou de la religion. Mais essayons d'être constructifs. Ces gens-là ne sont pas constructifs. Ils tirent la couverture vers eux, ils rament, ils tirent la couverture et ils le font en plus avec de gros moyens, les nôtres. Voilà.
Oui. Ben, après ça, alors voilà, on va parler de structures sociales, mais le plus, tu sais aussi les intentions derrière, quelque part.
Ben moi, ce qui m'intéressait à partir du moment où j'avais lu cette déclaration-là, c'est de me dire, bon, c'est un type, c'est un économiste ultralibéral qui est à fond dans sa logique, et au fond, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a donc mon réseau de résistants, ils s'opposent à des gens, mais ce ne sont plus les politiques, parce que les politiques, en fait, n'ont aucun pouvoir. C'est fini. Les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est les gens qui détiennent l'économie, et nous a vendu dans les années 80 une mondialisation qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui détiennent autant autant d'argent que la moitié de l'humanité. Donc ces gens-là ont le pouvoir, ces 15-20 personnes, ils ont le pouvoir. Et ces gens-là, ce qui me fascine, c'est vers quoi ils orientent les recherches. Les recherches officielles, alors il y a des trucs de bienfaisance, Bill Gates, tout ça. Là. Et puis en fait, quand on lit à droite à gauche, quand on commence à se renseigner, en fait, ils sont en train de chercher les régénérescences de cellules, comment la cryogénisation. Il y a des gens qui se font cryogéniser aujourd'hui. Donc c'est des gens, en fait, qui sont arrivés à un tel degré de pouvoir absolu, parce qu'en fait, de toute façon, leur fortune, elle est telle qu'ils ne pourraient absolument pas l'utiliser quand bien même ils voudraient, que la frontière suivante, en fait, c'est la mort. C'est la seule chose qui leur reste à conquérir. Et pour le conquérir, s'ils veulent le conquérir, il faut absolument qu'ils contrôlent. Alors dans le roman, je dis qu'ils contrôlent le cheptel. C'est-à-dire que pour eux, alors c'est pour le coup, ça c'est un thème post-humaniste. C'est-à-dire que l'humanité, pour eux, c'est une étape qu'ils sont en train de dépasser. Et donc, ils utilisent l'humanité comme un moyen pour eux de se maintenir et d'acquérir petit à petit l'immortalité. Parce que je me suis dit, finalement, je prends le présent, je le prolonge, le vrai pouvoir, il est là. Les politiques n'ont plus de pouvoir, c'est fini. Les politiques en France, je ne veux même pas les accabler, je veux dire, je ne pense même pas qu'ils ne soient pas sincères. À la limite, ils sont peut-être sincères, mais leur marge de manœuvre est nulle. Parce qu'au fond, c'est la finance Et c'est surtout la finance d'ailleurs, et de manière générale des grands groupes économiques et des multinationales qui aujourd'hui dirigent le monde. Point.
Par ignorance.
Et donc, à partir de là, je pense que la seule solution, c'est pas le repli, pour moi, c'est pas le repli, c'est la prise de conscience de ce que c'est qu'être un être humain, parce que ça, on est en train de le perdre. Parce que cette déclaration-là dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le titre même de la déclaration du mec pour qui l'économie est devenue un tel système de pensée qu'il a oublié qu'il est un être humain. Et que derrière ce qu'il fait et ce qu'il projette, il y a des millions de morts. Ça lui dit rien. Et donc, je me suis dit, voilà, on va au bout de cette logique-là. Finalement, comment est-ce qu'on combat? On combat déjà en se souvenant qu'on est un être humain. Et donc, dans mon histoire, il y a des relations parents, enfants, père, fille, très fort, très intense. Et en fait, il y a une fille qui est prête à tout pour sauver son père, il y a un père qui est prêt à tout pour ses enfants. Et en fait, c'est ça qui les sauve. C'est qu'ils retrouvent la cellule de base, la cellule humaine, qui est une cellule dans laquelle on est dans une transmission.
Si je peux rebondir juste sur ce qu'on a
non.
dit.
Voilà.
Merci.
C'est gentil.
Non, mais c'est. J'ai une grosse lectrice, une grosse fan de post-apo, et j'ai l'impression, après, il faut me corriger, mais si c'est pas votre vision des choses, mais qu'il y a un peu une sorte de deux âges du post-apo. C'est-à-dire, il y a le post-apo d'une génération avant nous, ou qui est encore représenté par certains auteurs qui ont commencé à écrire un peu avant nous, comme Jean-Marc Ligny, qui est vraiment le post-apo juste de sonnette d'alarme, de on est en train de détruire la planète, ou qui est le post-apo encore dans lequel sont beaucoup les Américains, comme Larousse, ou comme Coffey. C'est vraiment attention, on détruit la planète, et c'est des gens qui sont en train de crever dans ces mondes-là, point. Grosso modo. Ou c'est aussi, par exemple, la baie des chats, qui est aussi d'une génération avant nous, voilà, ou même si on pousse un peu plus loin, la planète des singes ou New York, quoi. C'est vraiment, avant tout, c'est centré sur attention à détruire la planète. Et dans ce qu'on écrit en ce moment, en tout cas en France, je pense à ce que tu écris, je pense à ce qu'écrit aussi Thomas Géa dans la série des Alone, mine de rien, on cherche à aller voir au-delà de ça. C'est-à-dire que le post-apo, j'ai l'impression, sert aussi à dire, mais regardez, même dans des circonstances terribles, d'autres systèmes sont possibles, d'autres mondes sont possibles, d'autres façons de fonctionner sont possibles.
J'arrive de l'espoir.
Et voilà, et mine de rien, dans ce qu'on disait sur l'ignorance aujourd'hui, disons, moi, ce que je vois, à côté, je fais de la littérature aussi ado, je bosse avec des ados, des jeunes dans ma banlieue, et même pas au niveau des ados, d'ailleurs, même au niveau des structures en général, une des choses que nous assène beaucoup le monde médiatique aujourd'hui général, c'est que, de toute manière, il n'y a rien d'autre qui est possible. Aucun autre système n'est possible. Et ça, c'est vraiment donc la vérité révélée de toute manière. C'est ce choix-là et pas un autre parce qu'il n'y a que ce choix-là qui est possible.
Et puis c'est la crise.
Voilà, et puis c'est la crise, et puis il n'y a pas d'argent, même si bizarrement, dans ma commune, il n'y a pas d'argent pour acheter 3 bouquins dans un centre de loisirs, dans le quartier d'en bas, mais par contre, tout à coup, il y a 40 000 euros pour déplacer la statue qui gêne la vue devant le bureau du maire. Mais bon, ça c'est. Voilà. C'est tous ces choix-là. Et donc on nous dit, de toute manière, c'est pas possible, restez dans votre case, il n'y a pas d'autre choix possible. Et le post-apo, quelque part, c'est aussi, j'ai l'impression, dans notre génération, pour ceux qui écrivent maintenant, une révolte contre ça, qui disent, mais si, il y a toujours d'autres humanités qui sont possibles, il y a toujours d'autres moyens de survivre, même dans des circonstances bien plus terribles que celles où nous vivons.
Mais il n'y a qu'à regarder comment vivent les gens qui sont dans des circonstances bien pires que les nôtres. Tu parlais de l'Afrique tout à l'heure. Il y a des endroits, c'est même pas de la science-fiction ce que tu racontais tout à l'heure. Hein. Les déchets, on les balance en Guinée, là-bas, dans la flotte. On a des zones entières polluées par Shell, Total, machin, des lagunes entières qui sont ruinées là-bas. Les gens vivent là-dedans. Ils vont ramasser avec une petite pelle ou avec une écumoire le pétrole qui surnage à la surface de la flotte où ils ne peuvent plus pêcher parce que, bien sûr, le poisson a crevé. Et ils vivent là-dedans. Il y a des gosses qui meurent de cancer à 12 ans. À 12 ans, parce qu'ils vivent dans les hydrocarbures en permanence, les hydrocarbures de M. Shell, de M. Total. Ils nous ont fait un grand coup, on s'est bien marré, tiens, d'ailleurs, avec le coup de la station BP qui a pété Horizon, je ne sais pas quoi, là, dans le golfe du Mexique. Parce que là, ça les touchait directement, les grandes puissances, à arriver direct chez eux, quoi. Attention, voilà. Et là, il n'est toujours pas réglé, le problème, mais on n'en parle plus. On préfère parler de Fukushima, de machin, et encore, même ça, on n'en parle pas. C'est pas bon pour les affaires. C'est comme la mafia, ça me rappelle la mafia dans les films des années 50. Quand quelqu'un arrive et crée un problème, c'est pas bon pour les affaires. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, on va le buter. Parce que c'est pas bon pour les affaires. Voilà, on peut pas avoir une histoire de bagarre ou de je sais pas quoi qui se passe dans un endroit où on réserve des trottoirs pour les prostituées parce que les touristes vont plus venir si quelqu'un se fait assassiner. Oh, Gino, on ne peut pas avoir ça, c'est rien de personnel, c'est les affaires. D'accord ? Ah, on ne peut pas, et c'est exactement ce qui se passe maintenant avec la politique. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on vous dit, il y a une super crise, faites gaffe, mais gardez votre boulot et n'allez surtout pas chercher un boulot qui vous plaise. Parce que, oh là 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 là, c'est la grande inconnue, c'est la crise. Maintenant, on n'a plus les moyens de vous laisser chercher du travail comme vous voulez. Hein. Même si vous êtes au chômage, restez-y, hein, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. C'est ça, on vous tient par la peur et l'ignorance. On vous tient, je dis, j'accuse personne, on me tient aussi. Hein. Moi, si j'écris autant de bouquins, c'est pour toucher plein de pognon. Hein. Ouais. Oui, je te remercie d'ailleurs. J'ai pas vu mon chèque au fait.
Là, il vient de baisser.
Bon, mais la virgule se déplace. La virgule se déplace.
Y a-t-il un plaisir d'auteur à reconstruire les murs des systèmes?
Ah ouais.
Ouais. Ah ouais. Alors, je voudrais dire aussi, ça c'est peut-être vrai, mais il y a un plaisir d'auteur aussi, mine de rien, à démolir ce qui me bouffe. Déjà, parce que, notamment, moi, mon post-apo est centré sur Paris. Paris, je veux dire, c'est la ville dans laquelle je vadrouille depuis que je suis toute môme. Donc, je fais tous mes trajets à pied dedans quand je peux. Enfin, j'ai une relation d'amoureuse avec elle depuis trop longtemps, pour être honnête. Mais, par exemple, en ce moment, il y a un truc qui me hérisse, c'est la muséification de Paris.
Quoi ?
La muséification de Paris, comment on est en train de ripolliner Paris, comment on enlève de Paris tout ce qui est vivant, comment on enlève tous les gens qui vivent vraiment, ouais, pour mettre en gros des Airbnb et des boutiques de fringues pour touristes ou pour gens qui n'ont rien d'autre à faire qu'à traîner dans des boutiques de fringues. Enfin, ce que je veux dire, moi j'ai étudié à la Sorbonne, ça a été, je ne suis pas scolaire, mais la Sorbonne j'ai adoré parce que c'est juste un endroit merveilleux. Et j'ai vu la fermeture des presses universitaires juste sur la place de la Sorbonne pour mettre des boutiques de fringues à la place, quoi. Et là aussi, ces derniers temps, enfin, à la base, je suis donc une grosse fan de punk et j'en écoute depuis à peu près, depuis même avant d'avoir l'âge. Et ce qu'il y a, c'est, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais là, en gros, il y a 10 jours, a commencé la destruction de la miroiterie. La miroiterie, c'était le squat de punk historique de Paris, quoi. C'était un lieu complètement foutraque, bien sûr, prenait l'eau de partout, mais qui était une source de vie. Il n'y avait pas que du punk, où il y avait du jazz, où il y avait de la chanson française, où il y avait des spectacles philosophiques. Et c'était un lieu hyper vivant. Mais simplement, Ménilmontant, maintenant, ben non, il faut y mettre des trucs propres, il faut y mettre des trucs, voilà, c'est des trucs clean. Et c'est une mairie gauche, en plus, qui fait ça.
Les investisseurs, ouais.
Et c'est vraiment, et mine de rien, dans le post-apo, ouais, ce qui m'a fait plaisir, c'est de ramener de la vie, et mine de rien, de ramener de la vraie vie dans Paris, même si la vraie vie, parfois, c'est crade, parfois, la vraie vie, c'est, voilà, c'est pas propre, c'est pas ripolliné, c'est pas un fantasme, donc, pour... un fantasme tout rose et blanc qu'on va vendre à des touristes à l'autre bout du monde qui, je suis sûre, en plus, préféreraient de beaucoup découvrir le Paris vivant qu'on est en train de faire mourir, quoi. Et voilà, mon premier truc, c'est vraiment, ouais, la destruction par moments, c'est jouissif.
Mais tu tues moins de ministres que moi, quand même, dans tes histoires.
Mais non, c'est parce qu'ils sont déjà morts, en fait, avant.
Ah,
c'est
okay.
Pour ça.
Ah, parce que je suis
mais
passé avant.
Mais oui, il
n'y
en a plus, en fait.
Je suis
voilà,
passé avant.
Philippe, le plaisir de la destruction.
Ah, mais moi, mon premier but, c'était de mettre mon poing dans la gueule de Lawrence Summers, le conseiller d'Obama et Clinton. C'était mon premier grand plaisir. Et en fait, même s'il a fallu 280 pages pour le faire, c'était quand même un pied d'enfer.
Tu lui as envoyé?
Non. D'abord, sûrement, il ne connaît pas le français. Et ensuite, je ne suis pas sûr qu'il sache lire.
Mais c'est pas grave, tu le pièges avec le virus du SRAS.
Ouais, non, mais après, ce qui est rigolo, c'est que à l'automne 2014, j'avais besoin d'un sénateur américain dans mon roman et j'ai cherché sur internet un peu et j'ai vu un mec qui avait une gueule de brochet. Du coup, je me suis dit, tiens, ça va faire drôle, ça va faire rire. Là. Et ce mec s'appelait Donald Trump et du coup, j'ai mis Trump.
Oh merde!
Qui à ce moment-là était vraiment une espèce d'hurluberlu de la télé-réalité qui n'était même pas encore investi ou quoi que ce soit.
C'est toujours hurluberlu.
Oui, ça n'empêche pas.
Mais plus dangereux.
Mais il y a aussi un plaisir de défendre. Moi, dans mes romans, même qui ne sont pas de science-fiction, je défends l'Afrique, le continent africain, contre la vision occidentale de ce continent-là, avec mes romans sont des romans dans des collections pour ados, et je me bats pour leur dire c'est pas le continent africain, c'est pas des hordes de migrants qui naufragent en Méditerranée toutes les semaines, même si c'est ça aussi, c'est pas juste des miséreux dans des bidonvilles, c'est des gens qui vivent, qui travaillent, qui ont des idées, qui ont des cultures très riches, millénaires, qui ont plein de choses à nous apporter, et qui sont les antipodes de ce que les médias dénonce. Donc c'est aussi se battre pour, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Et pourquoi l'Afrique, vous y êtes née ?
Oui, j'y ai vécu 2 ans et ma femme est africaine, j'ai 3 enfants métis et je vais au Cameroun régulièrement. Donc voilà, c'est un vécu perso.
Tu vas être expulsé après les élections, t'es courant ?
C'est très possible.
Remarque-moi aussi.
Mais je pense que...
Moi, je suis né ailleurs aussi, donc.
Je pense que oui. À la limite, je serais presque content de partir, si ça doit être le cas.
Ta question sur le post-apo, puis on passe aux questions du public. Dans vos romans, quelle est la mémoire du passé ? Est-ce qu'il y a de la nostalgie du passé ou c'était à peu près encore un peu stable ? Est-ce qu'on l'a oublié complètement pour passer à autre chose?
Bah, oui, il n'y a pas de nostalgie au sens propre, surtout que donc c'est encore une fois vu dans la peau d'un mec qui mine de rien est plutôt bien dans cette époque, même s'il prend pas mal de coups dans la gueule, parce que notamment mes héros ont souvent la poisse, ça vient aussi d'expérience personnelle. Mais c'est plus surtout ce qui m'intéressait avec le passé, c'est comment regarder le passé, regarder notre époque avec les yeux de quelqu'un qui vit 200 ans plus tard. Et comment il va voir certaines choses de notre époque, et simplement, bah, c'est le principe des lettres personnes, c'est même vieux comme la littérature, c'est comment une personne complètement étrangère à un lieu, à une époque, va en voir toute l'absurdité avec une clarté évidente.
Moi, de la nostalgie, non. Les seuls personnages, on va dire, nostalgiques dans Les Étoiles sans ballon, c'est la suite, c'est que ce sont les vieux réacs qui essayent de réinstaller un système sur lequel ils pourraient régner par la terreur, ou par les armes, ou par une autre forme de système. Mais il n'y a pas de nostalgie, même quand les héros sont en butte à des problèmes techniques, parce que la technologie ne fonctionne plus, parce que tout ça, ils inventent autre chose. Parce que se lamenter, quand c'est une question de survie, c'est-à-dire que moi aujourd'hui mon iPhone tombe à rade, putain, ça m'emmerde quoi. Mais je peux aller dans un magasin en trouver un autre, dès que j'ai touché mon chèque. D'accord ? Voilà. Mais à cette époque-là, si un objet technologique quelconque, comme par exemple un ULM pour aller de ville en ville, ne fonctionne plus, vous le réparez tant que vous pouvez, vous le réparez tant que vous pouvez. Alors évidemment, vous baissez les normes de sécurité au fur et à mesure, hein. ça descend jusqu'au moment où ça vole plus du tout, où ça s'écrase si vous n'avez pas de chance. Voilà. Mais il n'y a pas de nostalgie, c'est la débrouille, c'est la démerde. Le paysan du début du siècle qui avait sa charrue derrière son cheval, quand la charrue le soc cassé, bah, il l'emmenait chez le ferronnier, qu'il le soudait, qu'il le remettait. Il n'allait pas, chez Orange acheter un nouvel iPhone. Donc on est dans un monde différent, c'est pas une question de nostalgie, c'est une question de survie et de vivre avec ce que vous avez. Si on avait pour survivre là tous autant qu'on est, s'il y a l'apocalypse qui arrive et on n'a que pour survivre ce qui se trouve dans cette pièce, on va commencer par décider qui va manger qui,
oui. Déjà.
Hein, voilà. Mais bon, sans parler de ça, il va falloir survivre. Qu'est-ce qu'on a ? Ça marche plus parce qu'il n'y a plus de réseau. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a une pile, on peut faire du feu avec si on fait connecter 2-3 trucs. On peut arriver à survivre un certain temps avec ce qu'on a sur nous, là. Les textiles, les lunettes pour faire du feu avec le soleil à travers la fenêtre. De la flotte, il nous en reste un petit peu. On doit pouvoir fabriquer une bâche avec la rosée du matin pour en récupérer. Pour ça, il faudra qu'il y ait la moitié des gens qui arrêtent de bouger parce que de l'eau, on n'en aura pas assez pour faire boire tout le monde. Mais bon, on peut trouver des solutions. Et quand vous êtes dans cette situation-là, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est pas la nostalgie. C'est combien d'eau on aura demain matin. Voilà. Et là, vous vous en foutez de savoir si c'était vachement mieux parce qu'avant, on pouvait acheter un pack de flotte. Ben non. Voilà. Donc ouais, non, moi, il n'y a pas de nostalgie dans mes... Il n'y a pas de nostalgie de c'était le bon temps, de c'était mieux avant. Voilà, il y avait des belles guerres dans le temps, hein, la guerre de 14, 28 millions de morts. Quand même, c'est de la belle guerre, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est sympa, quoi. Voilà, ça a de la gueule. Hein, voilà. Maintenant, on fait des guerres ailleurs par procuration, on va tuer des millions de morts ailleurs, mais on ne les voit plus. On les voit quand c'est politiquement correct ou quand ça dérange le mec de l'autre bord. Voilà, t'as envoyé des avions au Mali. Je me gousse. Mais pourquoi faire ? Ben pour protéger les mines d'uranium d'Areva, hein. C'est pas pour aider les Maliens, hein. C'est sûr. Hein.
Moi, il y en a. Merci. Moi, il y en a un petit peu. parce que pour, enfin, dans la mesure où moi ce qui m'intéresse c'est l'être humain, enfin, là-dedans je trouve que la nostalgie c'est un sentiment humain que j'aime bien, voilà, je trouve que c'est une manière d'apprivoiser un peu la mort même, mais en tout cas c'est un... Donc la nostalgie c'est celle de mes deux ados américaines parce qu'elles ont des souvenirs de jours où elles avaient pas, quand elles étaient gamines, où elles n'avaient pas besoin de mettre des masques pour respirer, parce qu'il y a aussi de la pollution aux États-Unis dans mon roman, elle est là aussi aux États-Unis même s'ils ont voulu l'exporter, et elle est aussi celle de Jean-Baptiste, mon personnage africain qui nous fait rencontrer un vieil africain qui vit avec les trois derniers gorilles qu'il appelle ses gardiens, et c'est les trois derniers de leur espèce, ils vont disparaître, et là oui il y a une forme de nostalgie. Parce que là, pour le coup, je suis pas très optimiste, voilà, sur la survie d'un certain nombre d'espèces animales. Donc il y a une tristesse et il y a, oui, c'est vrai que c'est plus une tristesse d'ailleurs de voir ça disparaître, parce que c'est une richesse qui reviendra pas. Donc, ça c'est le côté qui peut y avoir triste dans la prospection écologique, même s'il y a une majorité d'espèces animales qu'on ne connaît même pas encore. Mais ça c'est autre chose.
C'est clair. On va les détruire sans les avoir jamais connues.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a une question pour nos auteurs ?
Oui, je sens que vous avez une question.
Du coup, ouais. C'était par rapport à la question, par rapport à la création et la destruction, justement, je me demandais si une catastrophe apocalyptique, c'est pas justement le meilleur moyen de faire table rase pour justement proposer des systèmes alternatifs. Parce que ça me paraît très compliqué, alors actuel, d'imaginer un moment crédible. De changer le système politique de façon juste en travaillant de l'intérieur.
C'est vrai que c'est une piste de départ pour faire un changement. Le problème, c'est qu'on sait déjà que ça ne marche pas. On a eu Tchernobyl, qui est une catastrophe planétaire. On en a fait quoi ? Un sarcophage de 6000 tonnes de béton. Et on a mis un gros couvercle par-dessus en disant « il n'y a pas de problème ». Le nucléaire, c'est pas dangereux. Tout de suite après, enfin à l'échelle mondiale, à l'échelle géologique, on a eu Fukushima. Fukushima, c'est pas dangereux du tout. Je veux dire, c'est un truc, c'est tout à fait anodin, quoi. Je veux dire, ça pollue la moitié du Japon, la moitié du Pacifique, et ça ne change rien. Les mêmes sont au pouvoir. Alors au Japon, c'est plus facile pour eux parce qu'un type fait son mea culpa, il fait machin, il se fait harakiri, toc, terminé. D'accord ? Ici, ils font pas ça quand même parce qu'ils n'ont pas l'honnêteté poussée jusque-là quand même, les nôtres. Et puis harakiri, ça fait sale sur une chaîne de grande écoute. Mais n'empêche que on a eu des catastrophes nucléaires, on a eu des catastrophes nucléaires, comme on rêvait dans le post-apo des années 60, avoir des catastrophes nucléaires, ça c'est fait. On a eu ça, on a eu des catastrophes chimiques, on a eu Bhopal, on a eu des catastrophes, des pollutions monstrueuses dans l'eau, on a eu des virus qui se sont barrés, on a eu le SRAS, on a eu Ebola, on a eu tout ça. On a eu tous les modes de catastrophes qu'on pouvait imaginer, et pourtant, c'est toujours les mêmes qui sont là. Et qui nous disent quoi ? Que le problème, en fait, c'est plutôt nous le problème.
Voilà. Mais ça n'a pas tué assez de gens.
Puis le non, problème, ça n'a pas tué. Ça a pas tué. C'est pas que ça n'a pas tué assez de gens, c'est que ça n'a pas tué les bons.
Il y a un truc, enfin, c'est une citation, je ne sais plus d'où elle vient, mais elle est notamment reprise par Alan Moore dans Watchmen. C'est que la fin du monde ne viendra pas avec un grand bang, mais dans un chuchotement.
Ouais.
Et longtemps, on a eu cet imaginaire de la catastrophe dans le post-apo, les post-apo et les générations d'avant, comme tu disais, tu vois, de la grosse catastrophe qui remet tout à plat. Ouais. Mais finalement, l'apocalypse crédible et imaginable maintenant, c'est beaucoup plus, par exemple, ce qu'il y a dans les romans de Morinval, dans Les étoiles sans balance, il y a des extraits de journaux. Donc, qui rythme un peu l'escalade vers l'apocalypse, j'allais dire la descente vers l'apocalypse. Et ce qu'il y a, c'est que finalement, ces extraits de journaux qui sont tellement proches de ce qu'on lit nous dans nos journaux, c'est juste le petit pas de plus après, mais c'est hyper crédible. Et franchement, ça fout bien les jetons en plus, c'est très bien fait. Mais voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus un ensemble de choses qui se dérèglent peu à peu, juste. On ne sait pas vraiment où est le point de non-retour en fait. Et puis, quand on se rend compte qu'on a passé le point de non-retour, quelque part, c'est déjà trop tard. C'est par exemple certains sols, donc notamment aux États-Unis, qui sont complètement pourris par l'exploitation de tout ce qui est gaz de schiste. Mais simplement, au moment où on se rend compte que tout à coup, il y a du feu qui sort des robinets, le problème, c'est que le sol, ça y est, il est déjà pourri, quoi. Et c'est, voilà, le moment où on a passé un point de non-retour, puis un autre, c'est toujours les moments où en fait, il est trop tard, quoi.
Mais est-ce que tu ne penses pas que la seule, enfin moi je vois ça comme ça, mon petit point de vue, la seule catastrophe internationale qui pourrait vraiment être une vraie apocalypse, c'est un virus, quoi.
Non, c'est un astéroïde. Ça a marché pour les dinosaures, c'était quand même des machins de 60 tonnes. D'accord, donc si on en prenait un sur la figure, je pense pas qu'on soit sauvé avec nos iPhones. Hein.
Ils n'avaient pas d'appris anti-atomique. Maintenant, il y a des appris anti-atomiques pour les puissances. Oui.
Non, mais ça, non, pour les ministres.
Oui, voilà. Oui. Mais c'est, ça. Mais c'est ça le problème.
C'est pour qu'il en reste 2000. Ouais.
Ben, par exemple, aussi, mine de rien, ce qu'on est en train d'avoir, enfin, dans les choses dont, dont on parle peu, mais qui sont des cauchemars de post-apo qui, je pense, auraient fait mais à hurler les générations précédentes, ou à fortiori au siècle dernier, on est quand même en train d'étendre de plus en plus sur Terre le principe des semences stériles. Oui. On est en train de cultiver de plus en plus des graines qui ne peuvent pas donner naissance à d'autres plantes.
Pour des raisons commerciales.
Voilà, c'est juste, enfin, c'est une aberration et un cauchemar génétique qui, je pense, deux générations d'auteurs avant nous, mais ils n'y auraient même pas cru, ils l'auraient mis dans leur bouquin, on leur aurait dit, non mais t'es gentil, mais là c'est quand même un peu
trop alarmiste. T'es gentil, fais un truc réaliste.
Voilà, ouais. C'est ça. Sauf que ça y est, c'est déjà en train d'arriver. Et voilà, et dans certains coins, on a des sols trop pollués, bientôt on aura des semences qui seront, dans certains coins, tellement...
Et bientôt, on aura des animaux qui ont été modifiés génétiquement pour qu'ils ne puissent pas se reproduire, pour qu'on puisse qu'avoir des animaux génériques, de manière à ce qu'ils puissent appartenir, que le concept du poulet TM, d'accord, appartiendra à Monsanto ou à je ne sais pas qui. Monsanto, c'est le premier qui me vient. Hein, c'est de... Bien sûr, il n'y a aucun problème avec Monsanto, évidemment. C'est enregistré contre qui ? Oui, d'accord. Donc, ils posséderont le brevet du poulet à six pattes, ce qui est vachement, d'un point de vue économique, c'est super, le poulet à six pattes. Hein. Donc, ils auront le poulet à six pattes et quatre ailes, et donc, ce poulet ne pourra pas se reproduire, et on le sortira à l'éprouvette, et ça ne pourra sortir que de chez machin. Voilà. Mais c'est la même chose. Là, on se marre parce que je fais des exemples avec le poulet, mais ce que disait Estelle avec les graines, c'est rigoureusement la même chose. Et c'est à peine moins compliqué.
Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir aussi les questions de loi maintenant. Il y a de plus en plus de coins du monde, heureusement d'ailleurs, les paysans se battent, ils résistent, il y a de plus en plus de coins du monde où l'échange traditionnel de graines non stériles devient illégal.
Oui.
Parce que le vivant est de plus en plus breveté et le vivant stérile, quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est... Et où se situe le point de non-retour, personne ne le sait. Et le jour où on le saura, bah, là, peut-être qu'il sera déjà dépassé.
Et il est intéressant de voir comment des gens comme Cocopelli se font faire, qui essayent de préserver des graines traditionnelles, se font prendre procès sur procès par Monsanto, qui veut s'assurer une exclusivité.
Eh bien, c'est un joli mot de la fin.
Sur cette note d'espoir.
Sinon, il n'y a pas d'espoir.
Sur cette note d'espoir.
Merci à tous et bientôt.
Merci à vous.
Merci. Merci.